Depuis mai 2012, l'épopée slave, l'œuvre majeure d'Alphonse Mucha, un des maîtres de l'art nouveau en peinture, est de nouveau exposée à Prague, au Palais des Foires, Veletržní palác en tchèque. Kateřina Průšová est lectrice à la Galerie nationale de la ville de Prague et enseigne l'histoire de l'art à l'université anglo-américaine. Et c'est avec une grande gentillesse qu'elle a accepté d'être notre guide pour nous faire découvrir ce cycle de 20 tableaux qui illustre la vision très personnelle de Mucha sur l'histoire des peuples slaves. Elle nous donne aujourd'hui quelques clés pour comprendre cette œuvre avant de se lancer à corps perdu dans la visite. Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire. Il fallait toute la majesté du Palais des Foires, situé dans le quartier d'Olechovice, dans un méandre de la Vltava à Prague, pour accueillir les 20 toiles aux dimensions non moins imposantes qui composent l'épopée slave d'Alphonse Mucha. C'est là que nous reçoit Kateřina Průšová, qui précise d'entrée que la visite pourrait durer des heures et des heures. Son enthousiasme est communicatif malgré le système de ventilateurs assourdissants qui accompagne notre discussion. Elle tient d'abord à préciser que ce n'est pas la première fois que l'épopée slave est exposée au Palais des Foires et que l'œuvre n'a pas rencontré le succès escompté par son auteur.
Pour la première fois, c'était présenté au Veletržní palác, au Palais des Foires, où on se trouve maintenant, en 1928. Donc au 10e anniversaire de l'État tchécoslovaque, 19 toiles étaient exposées ici à cette occasion. En fait, le Palais des Foires, cette architecture fonctionnaliste, a été construite pratiquement en même temps que cette œuvre a été peinte. Donc c'est deux facettes de l'époque complètement différentes, parce que vous voyez que ce cycle, c'est un cycle de la peinture historique, c'est un apogée de l'historisme, on pourrait dire, un apogée de le champ de signes de la peinture d'histoire. Et c'est ces 20 énormes toiles. Et c'est quelque chose de complètement différent de cette architecture fonctionniste. En fait, il faut penser que cette œuvre a été créée à partir de 1911-1912 jusqu'à 1926. Donc dans la peinture, surtout, ce cycle est un anachronisme total. C'était déjà critiqué à partir de 1909, c'était déjà critiqué par les artistes modernistes comme un anachronisme.
Au début du XXe siècle, la peinture cherche de nouveaux terrains d'expression. L'œuvre de Mucha semble tout droit sortir du siècle passé quant à elle. Elle est critiquée de toutes parts et également par les historiens qui lui reprochent, on le verra, d'avoir une conception très personnelle de l'histoire des Slaves. Tous ces critiques étonnent Mucha alors qu'il avait annoncé vouloir faire don de son œuvre à la ville de Prague.
Mucha en était trop surpris, finalement, parce qu'il pensait que Prague va accepter son don avec des bras grands ouverts. Il était très ami aussi avec Valchanek Polivka, c'était les deux architectes de la maison municipale. Donc vous savez peut-être qu'il a peint, sans se faire payer, il a peint gratis la salle du maire de Prague à la maison municipale, ce qui était très très critiqué déjà à l'époque. Et les mêmes architectes, Valchanek Polivka, ont projeté un pavillon rotond pour cette épopée slave qui devait être construite à Petchine. Mais il y avait une telle critique de tous les artistes et du public que ce pavillon n'a pas été construit, puisqu'ils ont dit qu'il y a des artistes bien plus importants.
La ville de Moravski Krumlov en Moravie du Sud a exposé l'épopée slave de 1963 à 2011 et conteste le transfert des toiles à Prague au motif que le fameux pavillon n'ait jamais vu le jour. C'était la condition posée par Mucha en échange de son don. Mais pour Kateřina Průšová, cette polémique n'a pas lieu d'être.
De toute façon, ces toiles ont été offertes à Prague par Mucha. Mucha les a peintes gratuitement pour la ville de Prague. Il s'est fait payer seulement. Il a trouvé son sponsor personnel, un mécène américain, Sir Richard Crane, qui lui a payé ses dépenses parce qu'il a dû voyager. Il a voyagé beaucoup. Il est allé en Grèce, il est allé en Russie, à Moscou pour s'imbiber de l'atmosphère. Donc il s'est fait payer bien sûr les couleurs, les toiles, mais il ne s'est pas fait payer pour le travail.
Pourquoi alors Mucha a eu l'envie de faire cela? Est-ce que c'était justement aussi dans une
une tentative de réaffirmer peut-être les valeurs et de, des Tchèques qui n'avaient peut-être pas encore de pays en 1914. Est-ce que c'était justement pour
tout à fait,
exacerber un petit peu le patriotisme, le nationalisme slave?
Tout à fait. En fait, il a consulté son travail avec le président de la Première République tchécoslovaque, avec le futur président Tomáš Garrigue Masaryk. Donc celui-là l'a beaucoup influencé, et en fait on peut comprendre mieux son œuvre en lisant Masaryk qu'en lisant l'histoire tchèque, parce qu'il ne choisit pas des sujets très typiques, il a un choix très personnel des sujets des tableaux. Il souligne beaucoup la réformation, la union, la jednota bratrská en tchèque, c'est l'union fraternelle. Masaryk a considéré Jan Hus comme la personnalité la plus importante de l'histoire, et cette personnalité est aussi soulignée dans l'œuvre de Mucha. Mucha, en fait, il évite des saints catholiques populaires comme Saint Wenceslas, Václav, ou Svatý Jan Nepomucký, Saint Jean de Nepomuc, il ne traite pas du tout, parce que aussi Masaryk, il a converti vers la religion protestante, vers le protestantisme. Plus tard, il a souligné beaucoup le rôle de l'Église hicite, donc Mucha fait tout à fait la même chose. Un autre moment super important dans cette très très important dans ce cycle, c'est la franc-maçonnerie de Mucha. Donc pour comprendre ce cycle, il faut lire Masaryk et il faut s'intéresser dans les francs-maçons, parce qu'il y a beaucoup de symboles de francs-maçons.
C'est d'ailleurs son appartenance à la franc-maçonnerie qui le conduira à la mort, puisqu'en juillet 1939, les nazis l'arrêtent à son domicile pour cette raison. Il décédera quelques jours plus tard à l'âge de 78 ans. Armé de ces quelques précisions, nous pouvons entamer la visite, et ce qui surprend tout d'abord, c'est la relative complexité de la répartition des tableaux dans cette salle immense. Katarzyna Pluchowa.
Le système de ce tableau est assez compliqué, même pour Mucha lui-même. Il y a 10 tableaux qui sont dédiés à l'histoire tchèque, à l'histoire de Bohème, et 10 tableaux qui sont dédiés aux autres pays slaves. Et même dans ce système, il y a un système qui touche la religion, qui touche l'histoire, etc. Donc ces trois premiers tableaux créent une unité, une certaine unité. C'est les Slaves dans leur première patrie, dans leur patrie originale.
Une toile de 8 mètres de largeur sur 6 mètres de hauteur pour une mise en scène très recherchée de l'esprit des premiers temps de l'âme slave. Katarzyna Pluchowa nous l'a décrit.
Les Slaves dans leur première patrie sont représentés par ces deux Slaves anonymes, Adam et Ève, des Slaves, qui nous regardent avec les yeux grands ouverts, qui sont évidemment terrifiés par tous ces soldats qui arrivent pour les chasser de leur première patrie. Et vous voyez qu'on ne peut pas dire absolument s'il s'agit d'un homme et d'une femme ou d'une mère avec un enfant. Ça reste ambigu. C'est ce que Mucha a beaucoup aimé, de laisser un peu espace pour l'imagination.
Cette première triptyque a pour but de nous introduire à la mythologie slave, et le deuxième tableau, foisonnant de personnages, nous présente le culte d'un dieu slave.
Le second tableau, c'est la célébration, la fête de Sventovit à Rujana. Rujana, ou Rügen en allemand, se trouve à la mer Baltique. Et c'est un événement qui aurait lieu au XIIe siècle peut-être. C'était une île qui a résisté à la christianisation pendant très très longtemps. Donc on peut voir une très grande fête païenne, où c'est une fête après les moissons, où il y a beaucoup de participants. Et dans la partie du tableau, on voit des personnages mythologiques. Donc on voit le Sventovit, qui était le dieu à quatre têtes, le dieu des Slaves. Il a son cheval, il est assis sur son cheval blanc, où son attribut c'est le cheval blanc, et un épée. Et c'est Sventovit
toujours plutôt paisible, pourtant, le dieu de la plénitude, disons, est attaqué par Thor, qui est un dieu germanique avec ses loups, qui vient attaquer la paix des Slaves. Cet or doit symboliser le roi danois Valdemar qui a attaqué Rouyana, Rouyana au XIIe siècle. Le culte de Saint-Ovid a été détruit.
Katarzyna Pruszowa poursuit.
Mais ce qui est intéressant sur ce tableau, on a parlé de franc-maçonnerie de Moukha. Ce jeune homme qui se dédie à l'art, il est en train de faire un idole où le symbole du soleil grandit, pousse des symboles du cœur. Donc Moukha, il oppose les Slaves qui se dédient à l'art aux Germans qui sont destructeurs.
Elle tient également à faire remarquer les regards soutenus adressés par une mère et son enfant aux spectateurs. Comme souvent dans l'œuvre de Moukha, les personnages principaux ne sont pas mis en avant. Il s'agit pour lui d'insister sur le fait que ce sont les gens ordinaires qui sont les véritables acteurs de l'histoire. L'initiation à la liturgie slave se poursuit avec le dernier élément de ce triptyque.
Donc ici, le troisième tableau, c'est l'introduction de la liturgie slave. Et on peut voir aussi deux niveau de la réalité. On a les saints slaves dans la partie haute du tableau et l'événement historique dans la partie basse. Ils sont différenciés par les couleurs aussi. Ce qu'on voit dans la partie basse, c'est ces méthodes, je pense, qui lit la lettre de pape. Qu'on peut continuer avec la liturgie slave parce que vous savez que la liturgie slave a été interdite par le pape et après c'était autorisé à nouveau.
Importance de la symbolique maçonnique, confrontation entre slaves et germains, imbrication du surnaturel et du réel, mise en scène des événements historiques, autant d'éléments que l'on retrouvera régulièrement dans la suite de la visite, des éléments qui n'ont rien à voir avec une démarche scientifique de représentation de l'histoire, comme le confirme Katarzyna Pruszowa.
Ce serait très difficile, ce serait impossible d'enseigner histoire d'après ce tableau. Ce n'est pas une illustration de l'histoire que Moukha fait, c'est plutôt une image d'histoire. Parce que la conception de Moukha, de l'histoire, c'est plutôt pénétrer à l'essence idéale de l'histoire que de raconter l'histoire chronologiquement. Donc c'était pas ce qu'il a voulu.
L'œuvre de Moukha attise cependant la curiosité sur cette histoire slave, relativement méconnue, et la richesse symbolique de l'œuvre ne laisse pas indifférent. Radio Prague vous propose de poursuivre la visite dans la prochaine édition de ces chapitres de l'histoire.